main qui fait sonner l'enclume, la main qui fait chanter la plume, la main qui creuse le sillon, la main qui arme le béton, la main qui nivelle l'air, la main qui referme la plaie, la main qui tisse le coutil, la main qui fait rougir l'outil. La main qui fauche les blés durs, la main qui cueille les fruits mûrs, la main qui coule le ciment, la main qui taille le sarment, la main qui tend, la main qui trace, la main qui coule, la main qui brasse, la main qui règle le compas, la main qui tient la bête au pas. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. La main qui resserre les taux, la main qui brase les métaux, la main qui fend, la main qui broie, la main qui cloue, la main qui bat, la main qui concasse le grès, la main qui fixe les agrès, la main qui perfore l'acier, la main qui course le clavier, la main qui frappe au cœur des arbres, la main qui façonne le marbre, la main qui plie, la main qui peine, la main qui travaille à la chaîne, la main qui creuse dans la mine, la main qui se blesse aux machines, la main qui souffre et qui se tord, la main qui tremble sous l'effort. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. Mais je crie à qui veut l'entendre, ma confiance en l'avenir, les mains sont faites pour s'attendre, les mains sont faites pour s'unir.
C'est bon? Donc nous sommes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission Et pourtant elle existe cette littérature, une émission qui est animée par des personnes membres du CLOPS, Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, et qui publie également la revue Fragments, revue de littérature prolétarienne, ainsi que maintenant nous sommes mis aussi au secteur édition. Alors, à la technique, bien sûr, Frédéric, aujourd'hui, comme d'habitude, oui, du groupe Fédération anarchiste de la Commune de Paris, et autour de la table, dans le studio, on va commencer par nos invités. Donc, il y a Sylvia, Joël et Guy, qui sont membres du groupe surréaliste de Paris, et Michel, qui est un peu à l'initiative, un peu beaucoup, de cette rencontre aujourd'hui, où on va aborder une initiative qui est développée par un groupe surréaliste de Paris. On va parler d'un peu de un peu beaucoup même de leur activité, et de l'initiative prise dans le cadre d'une exposition qui est prise dans le cadre du centenaire du manifeste d'André Breton, manifeste du surréalisme 1924. Voilà, ensuite, nous aurons un point où nous aborderons un hommage à Tessie Rome, qui est décédé le 4 juillet, qui était un membre du comité de rédaction de notre revue, qui était auteur et militant syndical aussi. Et nous finirons par revenir quelques instants sur le colloque que nous avons organisé le 8 et 9 juin à Paris. Nous en donnerons quelques échos. Alors, je vais donner la parole à Michel pour entamer la discussion avec ce mystérieux groupe surréaliste de Paris qui n'est mystérieux que pour moi, sans doute.
Non, pour moi aussi, en fait. Hein. Donc, en fait, eh ben, bonjour à tous. Et je suis déjà, on va vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir pour pouvoir discuter à peu près pendant une heure de ce qu'est le surréalisme, et particulièrement le groupe surréaliste de Paris, de ce que vous faites, de vos activités, présente, passée, à venir, enfin de faire un tour tout à fait complet. Donc déjà, peut-être on pourrait commencer par des présentations. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà tous les trois et puis dire un peu qu'est-ce que c'est que le groupe surréaliste de Paris dont vous faites partie?
Oui, Sylvia.
Je suis un membre récent du groupe, vu que c'est le centenaire du groupe surréaliste qui a en vrai jamais cessé d'exister, malgré l'autodissolution par une partie de ses membres en 1969. Donc je rejoins le groupe en 2017. Et depuis, je suis en partie des conseils de lecture et d'intérêt de mes amis Joël et Guy et d'autres, bien sûr, qui font partie du groupe. Mais je me suis rapprochée de plus en plus du noyau dur, disons, de ce groupe. Et je suis en ce moment coéditrice de la revue, de notre revue Alshenga, et aussi un des trois commissaires donc, de l'exposition Merveilleuse Utopie dont nous parlerons.
Très bien.
Voilà, moi je me présente, donc Joël, je suis membre du groupe surréaliste depuis la fin 95, où j'ai participé aux activités du groupe de Paris. Avant, je connaissais bien le surréalisme, mais parce que j'ai découvert le surréalisme étant adolescent, comme beaucoup de jeunes gens de ma génération. Et je pensais que le groupe n'existait plus. Et parce que il y avait eu cette déclaration de dissolution en 1969, et pendant une dizaine d'années, j'ai ignoré l'existence d'un groupe surréaliste maintenu. Or, il a été maintenu par des membres importants de ce groupe qui s'était dissous, donc en fait qui avait été dissous par une fraction du groupe qui avait pris en quelque sorte une sorte de pouvoir. Hein. Et les gens qui ont maintenu le groupe étaient des artistes, des poètes, de premier ordre, comme des peintres, par exemple, comme Jorge Camacho, comme Jean Benoît et Mimi Parent, comme aussi Michel Zimbacca, qui est également un cinéaste et un poète, Jean-Louis Bédouin, Joyce Mansour, la grande poétesse égyptienne qui avait été si proche d'André Breton à la fin de la vie d'André Breton. Et donc tous ces gens-là ont poursuivi l'aventure surréaliste, mais d'une façon évidemment un peu non pas clandestine, puisqu'ils publiaient un bulletin, mais d'une façon discrète et jamais reliée ou pratiquement jamais reliée par la presse. Donc ce groupe maintenu, s'est maintenu jusqu'à nos jours, et parmi notre groupe, il y a eu jusqu'à récemment donc Michel Zimbacca qui était né en 1924, qui aurait eu 100 ans cette année, qui malheureusement est décédé il y a 3 ans, en 2021, et qui était entré dans le groupe en 1949. Il a suivi toute l'aventure. Il avait très bien connu évidemment Breton et Perret, Benjamin Perret, puisqu'il a fait un film, L'invention du monde, avec Benjamin Perret. Il y a encore parmi nous, mais c'est un membre de loin parce qu'il n'habite pas à Paris, Hervé Delabarre, qui était entré dans le groupe en 1963. Voilà. Donc nous sommes dans la continuité de ce groupe de Paris. Je vais peut-être laisser Guy.
Oui, bonjour. Continuer. Donc, moi, je m'appelle Guy. Et ben, je rejoins le groupe en 1990, après que j'ai rencontré Vincent Bounour et Michel Zimbacca. J'étais au courant que ce groupe avait persisté après la après la scission de 1969, mais en fait, dans les années 80, moi je suis arrivé à Paris en 84, et bon, je m'intéressais bien sûr déjà au surréalisme. Ce groupe avait traversé une mauvaise passe, disons, il y avait plus grand monde, et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, en 1990, beaucoup de jeunes gens sont arrivés. Bon, la plupart sont partis d'ailleurs depuis, et ben, ça m'a donné envie de venir dans ce groupe, et donc j'y suis toujours, où je participe en tant que poète et peintre.
D'accord.
Je peux ajouter une
Bien
chose
sûr.
Peut-être aussi un peu sur d'où je viens moi-même, parce que je ne suis pas française, comme peut-être on peut entendre par mon accent. Donc je viens à l'origine de Pologne et par le Canada, parce que j'enseigne en anglais au Canada depuis une dizaine d'années. J'ai vécu au Canada anglophone depuis 1995. Et autrement aussi, je pensais à ajouter peut-être qu'il y a quand même des membres du groupe d'origine, disons, qui étaient dans le groupe surréaliste de Paris avant 69, qui sont toujours en vie et qui ne se rapprochent pas de nous, parce que pour eux, le surréalisme, c'est terminé, même si on a des contacts avec eux toujours. Toujours des contacts par les publications et parfois par les événements qu'on suit ou qu'ils suivent.
C'est une question comme ça qui me vient en vous écoutant, mais ce groupe se dissout en fait en 1969, et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part, puisque le surréalisme a toujours été aussi un peu compagnon de route de mouvements sociaux, d'agitation sociale,
oui.
Et là, juste 68, c'est une période d'ébullition. Et c'est à ce moment-là, un an après, quoi, que le groupe disparaît. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là par rapport à...
En fait, après la mort de Breton, il y a quelques-uns de ces jeunes surréalistes, enfin qui avaient la quarantaine déjà à l'époque, qui étaient sur une tendance très autoritaire, qui étaient encore très imprégnés de marxistes. À l'époque, ils avaient cédé aux sirènes du castrisme, fait un petit voyage à Cuba. Et dans l'effervescence de mai 68, ils se sont fait nettement remettre en question par d'autres surréalistes beaucoup plus proches des idées libertaires. Et le Café Surréaliste, aussi dans cette effervescence, a bien sûr attiré de très nombreux jeunes gens. Et en fait, tout ça a été très difficile à gérer pour le chef autoproclamé, donc un certain Jean Schuster, qui a préféré faire une sorte de putsch, et avec quelques-uns de ses amis, dissoudre le groupe, ce qui était scandaleux, et d'autant plus rétrospectivement, qu'en même temps, le surréalisme a toujours été aussi un mouvement international, presque dès ses débuts, et à la fin des années 60, il y avait le groupe tchécoslovaque, enfin, qui existait depuis 1934 et qui existe toujours. Enfin, maintenant, c'est le groupe tchèque et slovaque, et non pas tchécoslovaque. Et il y avait un groupe à Chicago qui venait de se constituer 3 ans auparavant. Il y avait aussi un groupe en Hollande. Et en fait, ces gens qui ont voulu dissoudre le groupe de Paris, en fait, n'ont absolument pas tenu compte des camarades étrangers. Alors que quand le groupe a repris en 1970, grâce aux efforts de Vincent Bounour, Bédouin et Zimbaka, c'était pour réaffirmer ses contacts avec notamment les Tchèques et les Américains.
Oui.
Et il est important de dire que nous, on veille toujours à maintenir nos contacts avec les camarades étrangers. Et d'ailleurs, ça se voit dans notre exposition où il y a des amis qui viennent de différents pays d'Europe et des Amériques.
Oui, dans notre exposition et aussi dans notre revue, puisque il y a place dans la revue à de nombreux textes traduits de l'étranger.
C'est ça. C'était d'une certaine façon un nombrilisme du groupe de Paris de cette époque, au moins les gens qui ont suivi Schuster, je voulais dire. Quand on lit le texte de la déclaration de la dissolution dans Le Monde, publié dans Le Monde, la quatrième chante, on voit qu'en fait, Schuster est très sanguinaire, optimiste par rapport aux événements qui sont survenus, qui ont survenu, qui, 68, c'est le début d'une transformation, donc, et à l'intérieur du groupe, ils ne voient pas suffisamment de cohérence. D'une certaine manière, les événements politiques peut-être ont rattrapé le surréalisme dans ses yeux, et c'est pour ça que c'est quasiment devenu superflu. Or, nous voyons bien que ce n'est pas le cas, que des décennies plus tard, ce n'est pas du tout dans l'optimisme que nous persistons, persévérons.
Et actuellement, quels sont vos moyens d'expression en tant que surréaliste? Vous avez des revues, vous éditez des livres, vous faites des expositions.
Nous avons des revues, une revue qu'on a relancée. Pour brièvement passer sur la période antérieure de 69 maintenant, il y a eu plusieurs revues, notamment le bulletin de liaison surréaliste, ensuite une revue qui s'appelait Surréalisme, qui n'a eu que deux numéros en 78. Et puis ensuite une revue qui s'est appelée Sur, SU2R, acronyme Surréalisme, Utopie, Rêve, Révolte. Où la dimension libertaire du surréalisme est implicite et même explicite avec quand même le mot révolte. Cette revue apparue de 96 à 2005, 5 numéros. Ensuite, nous avons eu une période où nous ne faisions pas de... Nous publions plus de revues, mais nous publions des petites plaquettes de travaux collectifs. Et nous avons relancé une revue en 2019 qui porte le titre d'Alcheringa, qui en est aujourd'hui à son numéro 5. On devait faire à peu près un numéro par an. En fait, l'année 2020, l'année de la pandémie, a fait que nous avons différé la parution. Mais donc nous avons 5 numéros, le dernier vient de paraître, de cette revue Alcheringa. Alcheringa, c'est un mot de la langue Aranda des aborigènes d'Australie qui signifie le temps du rêve. Voilà. Le temps du rêve, c'est pour les tribus australiennes l'ensemble des mythes et des pratiques de la tribu. Hein. Et donc ça faisait écho à notre grand intérêt pour l'onirisme et pour le rêve,
c'est
bien
ça.
Entendu.
Maintenant qu'on est sur la revue, peut-être on pourrait dire effectivement qu'elle vient juste de sortir. Et aussi où on peut la trouver, c'est-à-dire que...
Alors, pour l'instant, on peut la trouver, comme elle vient juste de sortir, on n'a pas encore eu beaucoup le temps de la diffuser en librairie. Elle est disponible à la Halle Saint-Pierre, à la librairie de la Halle Saint-Pierre, c'est là d'ailleurs notre principal point de diffusion. Elle est aussi disponible chez notre éditeur, Venu d'ailleurs. On peut la commander sur le site de Venu d'ailleurs par Internet. Elle va être normalement disponible à la librairie du Centre Pompidou, où les précédents numéros étaient déjà en vente. Elle est déjà disponible dans la librairie Chan à Paris.
D'accord.
Donc la fameuse librairie Boulevard Montparnasse. Voilà. Mais on va la mettre dans d'autres librairies, notamment à Publico, où les précédents numéros sont déjà là. Voilà.
Juste peut-être une petite précision avant de passer à une pause musicale. Guy, tu as expliqué que tu étais à la fois peintre et écrivain.
Oui.
Vous n'avez pas précisé comme détail. Vous êtes,
Alors Sylvia.
Oui, moi je suis donc, comme j'ai déjà dit, j'enseigne, donc je suis professeur dans une université. Plutôt à gauche, historiquement, très marqué à gauche, à Toronto, au Canada. Et je fais ce que je peux pour sortir un peu du cadre de l'universitaire. Et je publie des livres, j'écris des romans, je décris des récits, en plus des livres universitaires qui font que je peut puisse garder le poste qui m'était accordé, comme dans une loiterie.
Donc, alors des livres qui... Il y a quand même deux livres de Sylvia qui sont traduits en français. L'un dans la collection de Miguel Abensour, de feu Miguel Abensour, critique de la politique, qui est maintenant chez Klingsic. Mm-hmm. Un livre, alors c'est un recueil de fragments, justement, que j'ai traduit. Et puis un petit livre paru chez Venu d'ailleurs aussi, qui est là plutôt une sorte de nouvelle surréaliste. Quant à moi, je traduis des livres et j'en écris aussi. J'écris aussi des poèmes, j'ai écrit un livre de théorie politique,
oui, c'est ça.
Qui s'appelle L'homme sans horizon, qui est paru chez Libertalia,
où
je reprends le flambeau de la tradition libertaire et en même temps en la connectant avec le surréalisme.
D'accord.
Donc Frédéric, je crois qu'on va faire une petite pause musicale.
Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison. Silence sur la colline, c'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses de ses mains, ses alpins, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Chanter les couleurs, il y met sa vie, le bruit de son cœur, et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile, et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux, ses alpins, il laisse s'accomplir le prodige. Qui ne voit rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Quand Cézanne
C'est Radio Libertaire 89.4, nous sommes dans la thématique de la peinture, c'était Cézanne Pain par France Gall, je repasse le micro à Raphaël, pardon, excusez-moi, un petit trou de mémoire.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité à l'écoute de l'émission, et pourtant elle existe cette littérature, avec aujourd'hui une grande partie de l'émission qui est consacrée au groupe surréaliste de Paris et à ses différentes initiatives. Je rappelle le numéro du studio, sinon je vais avoir des petits soucis, 01 43 71 89 40. Michel ?
Oui, voilà, donc on va continuer cette intéressante discussion, en fait, en arrivant sur l'exposition que vous présentez actuellement à Saint-Cyr, La Poppy, dans une maison ayant appartenu à André Breton. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, mais je voulais aussi juste relier ce qu'on vient de dire avant la pause à cette présentation de l'exposition. Et c'est notamment qu'est-ce que nous faisons au sein du groupe. On peut dire qu'on poursuit les mêmes recherches, les mêmes questionnements que le groupe de Paris d'origine, fondé par Breton en 1922. Mais pour nous, évidemment, on suit, comme je dis, la même recherche, mais pour nous, récemment, c'est devenu important de se focaliser sur ce qu'on a en commun et de travailler vraiment dans la direction métapolitique, c'est-à-dire... D'abord, le groupe, c'est de l'amitié, ce qui nous relie, ceux qui sont là chaque semaine, parfois même absents, en absence, mais c'est l'amitié. Et donc, on essaye de vraiment mettre l'accent sur le but commun, donc la transformation utopique de la société, ce rêve social qui est autant plus important à nourrir actuellement que le monde ressemble de plus en plus dans ses contours comme dans ses détails à une dystopie. Et donc c'est le métapolitique qui nous a amené vers un thème comme l'utopie qui est donc ce but de la société, transformation totale de la société, le capital, l'abolition du capitalisme libéral et étatique. Et donc, dans ce but, avec notre revue et maintenant cette exposition, nous remanifesterons en tant que groupe de manière plus publique pour insister sur la dimension éthique du surréalisme au-delà de simple esthétique qui est souvent auquel le surréalisme est souvent réduit dans la culture populaire, dans le mainstream. Et donc évidemment, c'est la forme de l'utopie que nous visons, c'est une forme anarchiste et non pas marxiste. Mais là, voilà, là, on essaye de ne pas même utiliser les termes quand on essaye de regrouper certains nombres d'œuvres dans cette exposition, les termes trop idéologiquement marqués, pour justement aller un peu au-delà, dans un dépassement d'imagination. Donc l'exposition s'appelle Merveilleuse Utopie et c'est donc le merveilleux qui est je m'appuie sur la pensée d'un penseur de l'histoire d'utopie que j'aimais bien, Miguel Abensur, qui est évoqué par Joël tout à l'heure, qui a dit que ce n'est que dans les plus grandes utopies qui ont une forte charge onirique qu'émerge le merveilleux. Et après, c'est Pierre Mabille vraiment qui a défini le merveilleux pour nous. C'est la lumière du rêve, l'éclairage vert de la passion. Je cite Pierre Mabille, c'est le merveilleux qui est la conjonction du désir et de la réalité extérieure. C'est un instant troublant où le monde nous donne son accord. Donc, utopie, bien sûr, et le merveilleux qui est donc l'imaginaire, donc la transformation du monde, de notre imaginaire, de notre sensibilité par par l'imaginaire, donc tous les recoins de l'esprit, on peut dire, pour garder la grande promesse de ce mouvement, c'était justement la transformation de la vie, changement de du monde et même la refaite totale de l'entendement humain. Voilà. Et donc cette exposition, pour parler un peu plus concrètement, on a décidé, d'ailleurs, une des façons traditionnelles de se manifester pour les surréalistes, c'était des expositions internationales d'œuvres surréalistes, voire périsurréalistes, c'est-à-dire des œuvres autour du surréalisme qui interpellent les surréalistes, qui les regardent en quelque sorte, qui font écho en eux, et c'est pour nous le cas. Donc, une exposition qui est principalement des œuvres plastiques dans un cadre thématique précisément défini, tout en gardant que des grandes lignes. Et ces grandes lignes, c'est en fait les salles qui nomment les salles de l'exposition. Ce sont le rêve, le songe. On appelle ça des îles pour un peu donner l'idée d'un voyage utopique. Donc, salle des songes, île des songes, de la révolte, de métamorphose, de l'amour et de l'abondance. Donc ça, ce sont des thèmes qu'on a choisis, mais vraiment les grandes lignes pour ces thèmes. Et ça nous a permis d'éviter toute pédagogie et laisser un peu l'œil des visiteurs divaguer et voir les œuvres, tout simplement. Voir les œuvres. Donc nous trois avons été invités par l'association La Rose Impossible dans le village lotois de Saint-Cyr-la-Popie pour créer une exposition dans les deux lieux, les deux lieux qui sont maintenant réunis, qui étaient séparés avant les grands travaux qui ont été terminés l'année dernière. Et cela nous a permis d'imaginer un parcours continu donc dans ces deux lieux, ces 8 salles en tout. Et donc on a choisi aussi de faire une exposition internationale dans ce grande tradition. Donc 16 pays finalement sont représentés dans l'exposition. Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, etc., Slovaquie, et bien sûr Amérique du Nord, pareil, et du Sud. Donc Brésil, Mexique, Canada et les États-Unis. Et on a aussi, il faut le dire, produit cette exposition bénévolement et avec très peu de moyens. Sur place. On a terminé l'accrochage à peine 2 semaines, il y a à peine 2 semaines. Et c'était très difficile de faire prendre le mayonnaise, comme on dit, avec ces moyens. Mais au final, l'exposition nous a surpris. C'est les œuvres qu'on a choisies qui sont assez fortes. Et dans ce lieu magique, ça fait vraiment une très belle ensemble. Il y a bien sûr un catalogue.
Oui, notre exposition, comme l'a rappelé Sylvia, c'est une exposition internationale et on tient à mettre l'accent là-dessus, sur le fait que c'est la 19e exposition internationale du surréalisme depuis 1935. La première exposition internationale du surréalisme a eu lieu en fait à Copenhague. C'était une exposition qui a été organisée en 1935 à Copenhague et ensuite il y a eu plusieurs expositions internationales à Tenerife, on y en a eu à Londres, à Paris, avant la guerre. Et après-guerre, de nouveau, les expositions internationales ont repris. Du vivant de Breton, la dernière exposition internationale était celle de 65, intitulée « L'écart absolu » autour de la figure de Charles Fourier. L'écart absolu est un concept fourieriste. Je pense que pas mal d'auditeurs de Radio Libertaire sont au courant. L'écart absolu est la dernière exposition internationale internationale du surréalisme organisée par le groupe de Paris. Et les autres expositions internationales qui ont eu lieu dans l'intervalle entre cette 11e expo et la nôtre ont été organisées par des groupes étrangers, que ce soit en République tchèque ou aux États-Unis, notamment à Chicago, etc.
Au Brésil.
Au Brésil. Il y avait eu aussi des expositions internationales, par exemple au Brésil, il y en a eu une en 67. On est dans cette tradition d'exposition internationale, et nous avons essayé de regrouper la plupart des surréalistes avec qui nous sommes en contact dans le monde.
Régulièrement, c'est ça.
Régulièrement,
c'est
important, très régulièrement.
De dire que c'est pas que pour l'exposition.
Oui, nous sommes régulièrement en contact avec eux. Et ça se voit dans nos revues.
Oui.
Puisque dans les revues, nous publions régulièrement des textes qui proviennent de surréalistes étrangers que l'on traduit, donc de l'espagnol, puisque l'Amérique du Sud, du portugais aussi, ou de l'anglais, et du tchèque.
Et d'ailleurs, pour le vernissage de cette expo, nous avons eu le plaisir de recevoir la visite d'amis espagnols du groupe de Madrid et d'amis italiens.
Oui, c'est ça.
D'amis italiens, d'amis espagnols.
Il y avait un Chilien de passage.
Il y avait aussi un Chilien qui était là.
On peut dire aussi que vous avez beaucoup œuvré pour que la maison d'André Breton soit sauvegardée, rénovée.
Alors, ce n'est pas nous qui avons œuvré.
Voilà, ce n'est pas vous,
On a été en lien avec... on est en lien avec des gens qui ont fondé cette association de la Rose Impossible il y a 10 ans. Exactement, c'était le 10e anniversaire de leur association, pour justement que cette maison puisse être sauvée, disons, en tout cas transformée en un centre international du surréalisme et de la citoyenneté mondiale, puisque en fait, pourquoi Breton s'est-il arrêté à Saint-Cirq-la-Popie ? Eh bien, c'est parce que en 1950 a été ouverte la première route mondiale à partir de la ville de Cahors, le maire de Cahors ayant adopté les thèses, disons, des citoyens du monde animé par Gary Davis. Et à l'époque, André Breton s'était rapproché de ce mouvement, comme pas mal d'autres intellectuels à l'époque. Alors, quand André Breton est arrivé à Saint-Cirq-la-Popie, il a été ébloui. C'est là qu'il a dit, qu'il a écrit sur le livre d'or, la rose impossible, Saint-Cirq-la-Popie apparaît comme une rose impossible dans la nuit. Et il a pu acheter une très vieille maison. C'est une maison médiévale, mais qui était en ruine, en fait, pour une somme dérisoire, c'était 50 000 anciens francs.
C'est ça.
Même à l'époque, 50 000 anciens francs, c'était très peu. Voilà. Et parce que
Breton
n'avait pas d'argent.
Pour ça, parce qu'il n'avait pas d'argent.
Il n'avait pas du tout d'argent.
Et
d'ailleurs, il venait uniquement l'été dans sa maison, parce qu'il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas du tout de confort, les toilettes étaient à l'extérieur, il n'y avait pas du tout de confort, pas de chauffage, parce que l'hiver, il ne pouvait absolument pas y habiter.
Voilà. Est-ce que vous pouvez redonner les dates de l'exposition ? Donc elle a démarré début juillet.
Elle a démarré le 6 juillet
et elle se termine
le finissage, le dernier jour, c'est le 7 septembre.
Voilà. Donc c'est la période de vacances pour tous les auditeurs qui nous écoutent. si vous pouvez, si vous avez envie d'aller faire un tour à cette exposition, je pense qu'elle est très très intéressante en fait. Et sinon, vous pouvez toujours effectivement acheter le catalogue toujours à la Halle Saint-Pierre.
Saint-Pierre.
Alors tout ça, c'est bien parisien. Comment on peut faire pour les gens qui ne sont pas à Paris
Malheureusement, pour les gens qui ne sont pas à Paris, nous n'avons pas de diffuseur.
Eh oui, c'est ça.
notre éditeur n'a pas de diffuseur. Par contre, notre éditeur pour la revue peut très bien, on peut lui envoyer, il a un site internet et on peut commander la revue. Pour ce qui est du catalogue,
c'est La Rose Impossible.
C'est La Rose Impossible. Donc il faut commander à La Rose Impossible.
D'accord, à
Saint-Cirq-la-Popie. Voilà.
D'accord.
À La Rose Impossible. Et là, sinon, pour les Parisiens, il y en a à la Halle Saint-Pierre.
D'accord.
C'est déposé à la Halle Saint-Pierre.
D'accord.
Voilà. Notre éditeur venu d'ailleurs.
Oui, notre éditeur, c'est venu d'ailleurs, dans le Gard. C'est un éditeur du Gard.
D'accord.
Je reviens sur l'aspect initiative internationale. C'est-à-dire, vous avez expliqué des gens qui viennent de différents pays, des artistes qui vont exposer. Est-ce que ces échanges que vous avez sont structurés, ou est-ce que c'est au fil un peu des revues, de rencontres individuelles personnel, je dis ça parce que historiquement, dans les années 30, en 1938, quand Breton fait un appel avec Trotsky sur le rapport entre le mouvement révolutionnaire et le surréalisme, il a comme objectif la création d'une fédération internationale des artistes révolutionnaires structurée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette dynamique? J'ai bien compris qu'en 69, il y avait une cassure de ce point de vue-là, puisque il y avait l'ignorance un peu de ce qui se passait dans notre pays. Mais voilà.
Oui, non, c'est très différent. Bon, d'abord, la FIARI créée par Breton et Trotsky, donc en 1938, lors du voyage de Breton à Mexico, c'était une initiative qui visait à regrouper tous les artistes révolutionnaires indépendants, c'est-à-dire ennemis du stalinisme et de son esthétique réaliste-socialiste. Et donc, il y avait des surréalistes, mais pas seulement. Il y avait, je crois, du côté écriture prolétarienne, il y avait Poulaille, il y avait Jean Giono, d'autres gens. Bon, cette fédération, à cause de la guerre qui a éclaté un an plus tard, n'a produit que les deux numéros d'une petite revue, la revue Clé. Hein. Et bon, après, ça s'est dissous dans les brumes de l'histoire. Nous, dans le mouvement surréaliste, en fait, on fonctionne, disons, de façon un peu fédérative, mais sans programme. Sans ligne programmatique définie où chacun doit signer des articles deux fois. Notre rapport au surréalisme, chaque individu qui se dit surréaliste, bien sûr, se veut en rupture totale avec les valeurs qui font cette société, avec l'État, avec les religions, avec le capitalisme. Et nous essayons d'imaginer, d'abord en libérant notre propre imagination, comment un autre monde est possible, comment une autre civilisation est possible. Dans ce but, nous rencontrons par lettre, maintenant par mail. Autant que possible, lorsque nous pouvons voyager les uns dans les pays des autres, et en participant aux revues que chaque groupe fait. Par exemple, nous, il nous arrive d'écrire, par exemple, dans la revue Salamandra de nos amis espagnols, ou dans la revue Analogone de nos amis de Prague, et on les invite à écrire dans notre revue. Dans les années 1990, on avait tenté de ressusciter une pratique qui datait des années 30, c'était de faire un bulletin international sur un thème précis. On a fait deux numéros. Le second avait un peu marqué l'époque. En 92, c'était pour contester la célébration du 500e anniversaire de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Je crois que le texte avait été publié dans Le Monde Libertaire, d'ailleurs.
D'accord. Donc, oui. En fait, ce qui est réuni, c'est l'exposition qui est le lieu, en fait, de, je dirais pas centralisation, mais de rencontre.
Oui, c'est une rencontre.
Qui fédère différentes approches. Quoi.
Oui, mais d'accord. Nous n'avons pas d'organisation internationale structurée. Hein, pas du tout. Oui. C'est une organisation informelle. Enfin, ce sont des rapports informels qui sont
maintenus.
Des échanges,
des travaux collectifs. Hein, puisque la partie collective est très importante.
Oui, bien sûr. Mais aussi des échanges avec des individus. individus, parce qu'il y a des endroits où les individus sont isolés. Par exemple, nos amis italiens font partie, notre ami Massimo Borghese, qui est venu à l'exposition, qui est exposé dans le, chez nous, eh bien, à Saint-Cyr, eh bien, il fait partie du groupe de Paris, c'est un membre de loin, mais voilà, il n'habite pas Paris, parce que il fait partie de notre groupe, présent.
Quand je disais collectif, je voulais dire aussi pour l'élaboration des œuvres.
Ah, pour certaines œuvres,
c'est-à-dire que ce qui est quand même très, moi, très typique du surréalisme, et qui diffère complètement de tout ce qui peut être du reste du marché de l'art, c'est que justement, c'est une démarche collective d'échange, d'approfondissement, que les œuvres appartiennent à tout le monde, que chacun peut venir y mettre sa patte, et voilà. Et c'est quand même quelque chose de complètement innovant dans le marché de l'art actuel, qui est très centré sur soi, qui est plein d'ego, qui est plein... Voilà.
Et surtout maintenant,
et c'est ça qui est important.
Je pense que Guy objectera si je... si un jour, il me vient à l'esprit de prendre un pinceau et changer un peu les personnages.
C'est pas ce que je voulais... Je veux dire, accent d'accord.
Mais on a... par exemple... Ça m'est
arrivé de faire des peintures collective avec un ou deux amis.
Mais dans l'esprit, c'est dès le début collectif. Oui, voilà. C'est pas à part comme ça, dans la nuit, j'entre.
Ah c'est pas du tout.
Ces tableaux, je réécris ces poèmes.
En songe, peut-être.
Mais nous, par exemple, nous exposons plusieurs cadavres exquis. Dont, alors, un cadavre exquis réalisé dans les années.
Beaucoup de gens ne connaissent pas.
Voilà, le cadavre exquis, c'est en fait à l'origine une forme d'écriture collective, un poème collectif où chacun écrit un mot et passe le papier à son voisin sans que le premier voit le mot qui est écrit et ainsi de suite. Et la première phrase qui avait été écrite par ce procédé, c'était « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé cadavre exquis. Alors, des cadavres exquis, on en fait aussi en peinture et en dessin.
En collage.
Et donc, ce que nous exposons là à Saint-Cyr, plusieurs cadavres exquis, des cadavres exquis récents, faits par exemple, l'un fait par Guy et mon frère, par exemple, un autre fait par l'ensemble des membres du groupe de Paris, c'est un cadavre exquis là où on est plusieurs à avoir participé. Et il y a également un cadavre exquis plus ancien, fait par des membres du groupe à l'époque de Breton.
Il date de 67.
C'était encore le groupe de Breton, juste après la mort de Breton, mais en fait, c'était un cadavre exquis.
Pour les auditeurs, il y a donc un papier sur lequel il y a un premier dessin ou peinture ou collage qui est fait, qui est replié et qui laisse apparaître qu'un petit détail de ce dessin collage. Et la deuxième personne va refaire une peinture en collage. Tout ça, à partir de ce détail, on va replier le papier en laissant encore un petit détail et ainsi de suite, vu le nombre de participants. Et ensuite, quand c'est fini, on déplie la feuille et on se trouve face à une œuvre que personne, en fait, n'a vraiment pu réfléchir, parce que chacun a fait sa petite partie, et on se trouve face à une œuvre collective qui peut être de très grande beauté.
Oui, et qui souvent nous surprend.
Et souvent, les trois quarts du temps nous surprend.
Qui n'est pas maîtrisé.
Voilà, c'est ça.
Ni Dieu,
qui
ni
n'est
maître.
Pas maîtrisé.
Voilà,
c'est ça.
Donc, on a bien compris.
Justement, une chose qui est importante à dire à propos de ces créations poétiques ou artistiques collectives, c'est qu'on fonctionne sur le principe du jeu. Il n'y a rien de, pour moi, de plus horripilant d'entendre un artiste parler de son travail.
Oui, nous ne travaillons pas.
Nous jouons. Et même moi, quand je peins, quand je fais une peinture tout seul, je joue. Je ne travaille pas, je joue.
C'est ça. Alors, ne parlons pas des artistes, parce que j'en connais, malheureusement, qui, en plus, ne veulent pas qu'on regarde quand ils travaillent.
Oui.
Donc, voilà.
On a bien compris que La création artistique surréaliste, c'était une œuvre collective avec un aspect non maîtrisé, hein,
oui, c'est 900
non planifié,
et sans Dieu, hein.
Et que il faut pas, mais que ça n'avait rien à voir avec touche pas à mon tableau que j'ai fait et qu'il ne s'agit pas de gribouiller dessus. On va faire une petite plage musicale que je vous laisse annoncer.
Oui, alors nous avons choisi en ce 18 juillet de passer une chanson, un hymne que nous aimons beaucoup, c'est Hijos del Pueblo, chanté par et interprété par l'Opéra Collectivisé de Barcelone en 1936.
Merci beaucoup.
Radio Libertaire 89.4, je rappelle le titre de la chanson, Hijo del Pueblo, c'est l'émission Et pourtant elle existe cette littérature et je repasse le micro à Raphaël.
Et nous reprenons donc la discussion autour du groupe surréaliste de Paris où nous allons avoir les dernières interventions sur ces questions, Michel.
Oui voilà c'est ça, donc la question qu'on pouvait se poser aussi, c'est quel lien vous entretenez en fait avec la pensée anarchiste et les milieux libertaires en France et dans le monde.
Oui. Ah, tu vois, elle écoute.
Ce dont on a déjà parlé.
Elle écoute de Hijos del Pueblo. Oui. Je peux rappeler que c'était à l'été 1997. Nous, le groupe de Paris, nous avons fait une expo au local de la Fondation Anselmo Lorenzo à Barcelone à l'initiative de la CNT là-bas.
Oui, c'est ça.
Donc on a vu un texte publié dans leur journal Solidaridad Obrera. Mm-hmm. Okay. Bon souvenir.
Oui, certainement.
Oui. Mm. Et puis, personnellement, je vous ai rencontré en tant que groupe surréaliste de Paris en 1995 à une exposition à la CNP des Vignoles.
Oui, oui.
C'est oui, ça. Que c'était déjà.
C'était déjà.
Voilà, déjà des liens.
Il y avait déjà
très fort.
D'accord, c'est ça. C'est
et
ça.
Puis, bon, depuis, vous savez, quand même, on n'ignore pas que le groupe surréaliste de l'époque de Breton avait participé, avait écrit des billets dans Le Libertaire, dans les années. En 1950. Hein. Il y a eu toute une série de billets surréalistes écrits par les membres du groupe de l'époque. Dans Le Libertaire, et c'est cette collection de textes surréalistes, de billets surréalistes, avait été réédité il y a une trentaine d'années. Hein.
Quarantaine maintenant.
Peut-être quarantaine d'années.
C'était
oui.
vers 80. C'est sans doute introuvable maintenant.
Oui. Ouais.
Donc en fait, au niveau de Paris, puisque là pour l'instant on en est là, est-ce que vous pensez un jour pouvoir monter une exposition sur Paris? Non, je ne sais pas quand, hein. Et peut-être pas l'exposition actuelle, en fait, parce qu'après, il faut trouver des locaux très grands.
Ah, c'est la question du lieu. Bon, les galeries marchandes estiment très généralement que le surréalisme, ça s'est terminé soit à la fin des années 30, soit donc à la fin des années 60. Et je ne pense pas qu'elles soient intéressées par le fait de montrer des artistes actuels qui, pour la plupart, n'ont aucune valeur sur le marché de l'art.
Les galeries, ça ne les intéressera pas. Oui.
Donc, reste la possibilité des lieux intermédiaires. Par exemple, bon, là, ce n'est pas à Paris, c'est à Saint-Ouen où j'habite. Je participais à une galerie associative et donc j'ai eu l'occasion pendant 3 ans de monter 3 expos thématiques. Une sur le collage surréaliste, une sur la photographie surréaliste, une sur le dessin surréaliste. Hein, c'était en 2018, 19 et 20. Je recevais des petits formats de tous mes amis étrangers. Et j'en accrochais une centaine sur les murs de cette galerie. Mmh. Et ensuite, ça partait, c'était exposé à la Maison Breton ou à Saint-Cirque-la-Poupie. Comme ça, d'ailleurs, que se sont développés nos contacts avec les
avec
amis là-bas.
Avec les amis là-bas, c'est ça.
Cette exposition qu'on fait en ce moment est beaucoup plus ambitieuse et aussi parce que c'est l'année du centenaire.
Oui, c'est ça.
On voulait réunir des œuvres qui couvrent un large panorama, c'est-à-dire les années 20, de tout début du surréalisme, avec Clovis Trouille et
Papazov,
les années 20 et les années 30, des œuvres rarement montrées, puis les années 50 à 70, avec des artistes qui ont vécu à Paris, qui sont passés par Saint-Cyr, aussi qui ont passé une partie de leur été du vivant de Breton avec Breton, Mimi Parent, Jean Benoît et d'autres. Donc, ils sont présents aussi. Et on a trouvé également des peintres injustement méconnus, certaines trouvailles qu'on voulait mettre à côté en dialogue avec ses œuvres, comme le Cubain Roberto Garcia York, qui était ami de Leonora Carrington, Jorge Camacho. Donc il y a certains noms qui sont bien sûr plus connus dans le monde d'art, mais cette année ils ressortent tous parce que c'est le centenaire.
Oui,
et donc
ça.
Il y a un parcours à Paris prévu pour l'automne, un parcours Paris surréaliste dans lequel participent plus de 2 dizaines de galeries, même presque 50, j'ai l'impression, je n'ai pas compté. Souvent, ces expositions, donc, pour l'automne, sont des expositions qui mettent en correspondance ou invitent des artistes à le faire, en correspondance des œuvres surréalistes anciennes, historiques, et avec des artistes qui ont une certaine valeur renommée dans le marché d'art. Donc, effectivement, ça n'a rien à voir avec notre démarche dans cette exposition dans laquelle la plus grande partie est consacré aux artistes contemporains qui, non, comme avait dit Guy, qui sont pas des artistes cotés, qui ne sont pas exposés dans ces galeries à Paris ou ailleurs. Donc, ce serait très bien de trouver un lieu où on pourrait déménager cette exposition en septembre à Paris. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé, parce que c'était un énorme travail de réunir toutes ces œuvres qui sont historiques, qui devraient assurer.
C'est vrai que...
Voilà.
Oui, c'est... Effectivement, on n'aura sans doute absolument pas l'occasion d'avoir à notre disposition un lieu assez vaste pour accueillir la centaine d'œuvres qu'on expose à Saint-Cirq-la-Poupie, dont certaines sont de très grand format. Donc, c'est pas possible. Mais par contre, effectivement, si nous pouvions organiser d'autres expositions ultérieurement, mais toujours selon le même principe, un principe qui tourne résolument le dos au marché de l'art.
C'est ça.
Et au côté purement rétrospectif, parce que nous, notre propos, c'est de montrer que le surréalisme est toujours vivant.
Et vivant. Surtout qu'on en a beaucoup besoin, effectivement, comme disait Sylvia, dans ces temps troubles. On a vraiment, vraiment beaucoup besoin de rêves, de songes et d'inventer quelque chose de nouveau avant que ça nous tombe sur le coin du nez, quoi.
Je pense que ce que tu as résumé en disant faire connaître des œuvres d'hier et d'aujourd'hui, un peu,
c'est
un peu un travail que nous on se donne aussi pour la littérature prolétarienne. Mais est-ce que nos possibilités, faut être aussi lucide, je crois. Ah, c'est un avis vraiment personnel, mais je pense que dans le contexte politique et social du monde aujourd'hui, pas simplement d'horizon hexagonal, est-ce que notre travail, votre travail, n'est pas nécessairement limité aussi par ce contexte qui fait que quand il y a des mouvements sociaux, des perspectives d'émancipation collective, les possibilités d'expression et de faire connaître un certain nombre d'écrits, de créations, sont démultipliées par rapport à la situation d'aujourd'hui, où on est plutôt sur les replis, et en fait, on a... Alors, c'est peut-être un objectif plus limité, mais mémoriel. Un travail de...
Bien sûr qu'on a...
Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi derrière?
Tout à fait.
Je pense que le contexte conditionne aussi peut-être c'est mon côté marxiste, mais je crois qu'il y a un contexte social et politique qui détermine les possibilités de la création et qui la limite, en tout cas, dans sa diffusion.
Qu'il la limite dans sa diffusion, oui, d'accord.
Oui, mais il ne faut pas s'en rester là, cependant, en fait. Tu vois, c'est ça.
Sinon, je ne serais pas là.
Parce que là, par exemple, les grandes expositions dont parlait Sylvia, ça va être à Beaubourg, à l'automne. Il va y avoir une rétrospective.
Beaubourg, elle est relimitée à 69.
Voilà.
Ça
va, comment dire, enterrer complètement la pensée surréaliste actuelle.
Exactement.
Parce que, en fait, c'est l'objectif de ces grandes rétrospectives, où tout le monde va aller en se disant c'est magnifique, mais tout ça, c'est fini. Donc, c'est justement ça qu'il faut continuer à rendre vivant, et comment, et d'autant plus, je dirais d'autant plus aujourd'hui. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est pas facile, certainement, mais d'un autre côté, il semblerait quand même que beaucoup de gens en aient besoin, et que notre discours est entendu quand même si effectivement au niveau des moyens quelquefois c'est un peu difficile, mais il semble que quand même ce discours se répand quand même beaucoup, et qu'on peut être entendu, moi je pense. Il y a des gens qui sont intéressés.
J'étais frappé de voir, au lendemain du vernissage, voir sortir de cette exposition deux jeunes femmes, vraiment très jeunes, dont moins de 25 ans, qui me disent « Ah, c'est absolument merveilleux ce qu'on a vu, on n'a jamais vu ça. »
Ben oui, elles n'ont jamais vu ça, effectivement.
C'était des touristes qui étaient là, de passage à Saint-Cirq-la-Poupie. Ce n'étaient pas des habitantes du lieu, c'était visiblement des touristes. Elles étaient vraiment enchantées, au sens fort du terme. Et c'est quand même, c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir montrer un ensemble d'œuvres qui contraste totalement avec l'insipidité de l'art contemporain dont on nous nous rebat les oreilles aujourd'hui.
Mais qui est centré sur les goûts, hein, et qui, oui, enfin pas que l'art contemporain.
Tout qui est aussi un art de plus en plus basé sur le virtuel, les écrans, la vidéo, etc. Et où il n'y a plus l'œuvre en tant qu'œuvre matérielle. Là, nous avons des sculptures, notamment une sculpture en bronze et porphyre d'une grande artiste encore vivante, qui est notre amie et qui fait partie du groupe, qui s'appelle Virginia Tintindo, hein, qui est une artiste d'origine argentine, qui est arrivée en France en 53 et qui vit toujours à Paris. Et on a une magnifique sculpture représentant Pandora.
Oui, c'est ça.
Et on a aussi, donc, on a des œuvres qui sont, quand on les voit, c'est palpable. Ce sont des toiles, ce sont des tableaux, ce sont des sculptures, ce sont des dessins. C'est pas des pixels écrans qui se baladent sur un écran et qu'on va effacer d'un clic.
Il y a aussi, non seulement les tableaux, il y a aussi quelques installations, et parce qu'on a invité quelques artistes créateurs nous aider à transformer le lieu dans un lieu encore plus merveilleux que c'était déjà, parce que le bâtiment soit absolument splendide. Et notamment, on a invité une compagnie de nouvelle magie pour installer une sorte de une rangée des plantes qui dansent, qui sont animées, des plantes vivantes, organiques. Ouais. Et aussi un miroir liquide.
Le miroir liquide, oui, c'est ça.
Qui est un objet un peu, en apparence, objet steampunk, on ne sait pas vraiment ce que c'est, ça peut ressembler à une, dans mon imaginaire au moins, une machine à faire remonter le temps. En fait, c'est un miroir qu'il faut mettre en marche, qui donne des reflets sur le mur, qui transforme cette ambiance, la rend plus merveilleuse. Donc on voulait pas s'arrêter juste, mais encore une fois, les moyens étaient limités, on pouvait pas faire plus que inviter certains gens qui sont plus doués techniquement que nous pour faire cela. Et autrement on cherche les collaborations. C'est aussi par extension, justement. Bien c'est sûr. pas juste pour rester dans le surréalisme et juste collaborer avec des autres surréalistes. On voulait élargir un peu le cercle pour attirer aussi des gens qui autrement n'auraient pas trouvé le chemin vers cette exposition par à la fois le thème utopie qui parle à beaucoup plus de monde qu'il y a encore même 10 ans, et par le côté international et par le côté tout simplement merveilleux.
C'est ça.
Très bien, je crois qu'on peut clore cette intervention sur
merci
le groupe
beaucoup.
Surréaliste de Paris. On aura peut-être l'occasion.
Il est bien vivant, il est bien là, il est bien vivant, et il a des projets.
On aura peut-être l'occasion de rediscuter, de se revoir, de parler
du
surréalisme au Canada. On n'a pas abordé, en Amérique du Nord. Il y a des choses qu'on a sans doute à creuser, en Amérique latine. On va faire une petite pause, Frédéric.
Des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte de la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est tôt de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Les gares à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On enchaîne, on fusille tous
ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de Bouge. Valet le roi et l'empereur, oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est l'émission Et pourtant elle existe qui continue. La chanson c'était La semaine sanglante, interprétée par Francesca Solville. Je repasse le micro à Raphaël.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, à l'écoute de l'émission Et pourtant elle existe, cette littérature consacrée à la littérature qui vient d'en bas, littérature ouvrière, paysanne et sociale, et animée par des membres du Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, et de la revue Fragments. Alors, ce n'est pas par hasard si on a écouté La semaine sanglante, c'est une forme d'hommage, on reviendra sur cet hommage à Tessirome, enfin Tessirome c'était son pseudonyme, son nom c'était Serge Morisset, qui est décédé le 4 juillet, et qui était un membre du comité de rédaction de notre revue, et qui était aussi un militant anarcho-syndicaliste des PTT, avec lequel personnellement j'ai milité pendant 35 ans à peu près, et qui avait la particularité d'être aussi, en dehors de son activité militante qui n'était pas faite à moitié, hein, qui a participé à des luttes significatives qui ont été importantes pour la CNT à l'époque, qui étaient notamment la grève des nettoyeurs du métro, de la Comatec, hein, et tous les conflits des PTT, et qui a mené en 1999 à Versailles, en plein mois de Noël, en plein milieu des fêtes de Noël, une grève avec occupation et création d'un brasero de tente à Versailles, à quelques mètres du château, et ça avait été un moment très très fort de l'action syndicale collective qu'il avait animée, hein, pas tout seul, mais dont il avait été quand même un des premiers soldats. Donc Serge nous a quittés à l'âge de 69 ans, le 4 juillet, à l'issue d'une maladie qui l'a handicapé depuis quelques années. Alors on reviendra, hein, il a écrit dans 4 numéros de fragments. C'était quelqu'un qui avait... on reviendra sur en lisant un certain nombre de ses textes, à la fois des poèmes ou des nouvelles. Hein. Il sera aussi, puisqu'on prépare pour l'automne, enfin pour le mois d'octobre, un livre sur les PTT à travers des témoignages, des nouvelles ou des textes, même des poèmes parfois, de postiers ou de télécommunicants, à la fois des gens qui étaient dans les centres de tri, des gens qui étaient sur les ambulants, des gens qui ont travaillé dans le secteur des téléphones, de la téléphonie, à la fois avec des textes anciens, les années 30, hein, que Poulaï avait publié, et des textes d'aujourd'hui. Donc on retrouvera la plume de Tessirome, hein, une plume, c'était vraiment un travail d'artisan. Il maniait vraiment le mot et il arrivait à faire toujours un second degré de ses lectures, et des gens qui, à la première lecture, disaient « oui, pourquoi pas ?» souvent nous recontacter, et ça on l'a vécu en lui disant oui, effectivement il y a une richesse dans son écriture. Et en même temps il était aussi ce qu'il appelait un tailleur de pierre. Il travaillait puisqu'il était en Touraine depuis plusieurs années, et il travaillait la pierre de tuffeau, et il faisait des sculptures avec beaucoup aussi d'humour qu'on retrouvait dans ses textes, et l'humour qu'on retrouvait, il appelait ça faire du... Il ne se définissait pas comme sculpteur, il disait « je suis un gratouilleur de pierre ». Et il faisait vraiment des... Il en a fait plein pour des gens qui habitaient autour de chez lui. Et il en a fait un pour son décès. Une très belle sculpture qui s'appelle « En pause syndicale ». Et vraiment, toujours l'ironie à la pointe des mots. Voilà, donc, il aimait la vie, le collectif. C'était fondamental pour lui. C'était un grand débatteur. Très tard dans la nuit, on pouvait discuter sur l'écriture, la littérature. Je veux dire, il avait une vision très large, une connaissance très large des écrits qui dépassait... parce que souvent, dans les milieux militants, on est adepte des livres militants qui nous parlent de notre projet, de notre histoire. Là, il y avait une ouverture beaucoup plus large. Voilà. Et il a aussi un esprit très critique sur des auteurs, sur des chanteurs. Il adorait Brassens, sauf certaines questions. Mourir mais de mort lente, ça passait pas. Ou d'autres textes où il était, notamment la chanson de Brassens, Les deux oncles, où il reprochait un peu à Brassens de ne pas choisir son camp. Et voilà, donc je terminerai par là. Et quelques mots évidemment à Isabelle, sa compagne, et à ses enfants, Hugo et Flora. Voilà, c'est un peu rapide pour aujourd'hui, mais on reviendra à la fois au cours de l'émission, mais aussi sans doute sous la forme d'un petit supplément à la revue qui reprendra quelques textes de Serge Morisset, alias Tessirome. Voilà, et je vais revenir pour terminer. Michel, tu peux intervenir aussi, hein,
sur le
colloque, parce qu'on vous a, les auditeurs et les auditrices de Radio Libertaire, on les a beaucoup occupés avec la préparation de ce colloque, hein, qu'on a préparé pendant un an, qui était autogéré de A à Z, qui a duré 2 jours à la GK. Hein, c'était à la fois un investissement de notre collectif. Hein, bon, on est une 50aine d'adhérents, hein, je ne prends pas des abonnés, mais l'équipe militante, c'est plutôt une 15aine. Et ça nous a bien mobilisés pendant un an, à la fois avec des interventions plurielles. Hein. Il y avait à la fois des universitaires, hein, ceux qu'on trouve sympathiques, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas simplement les écrivains quand ils sont à l'état de cadavre, mais qui considèrent aussi qu'il y a des auteurs aujourd'hui qui sont bien vivants. Hein. Donc on travaille avec ces universitaires. Hein, je peux citer Sarah Matari, qui est déjà venue sur cette antenne, qui fait un travail extraordinaire pour la littérature prolétarienne en tant que maîtresse de conférence, et bien, je crois, directrice de recherche maintenant à Lyon, qui est intervenue. On est aussi des gens sont intervenus comme Michel et...
Giuseppe,
je cherchais son nom, Giuseppe et Sylviane, qui nous ont présenté le travail de Michel Ragon, à partir de ses écrits sur Courbet. On a eu une intervention, on va dire, plurielle, hein, autour du centenaire de la naissance de Michel Ragon, à la fois sur ses écrits sur le cycle vendéen, hein, et on reviendra sur tout ça, mais disons que la capacité d'autogestion de cette initiative a été relativement positive, puisque on a eu 180 personnes sur les deux jours, ce qui est très positif, hein, avec trois salles. On est à l'équilibre financier, parce que
oui, ça aussi,
la GK, c'est quand même, pour les deux jours, oui. C'est, puisqu'on avait une salle qui était réservée à des films consacrés à Michel Ragon, une salle pour la restauration, autogérée par des camarades de Bayonne, de Bordeaux, d'Argenteuil aussi. Et tout ça a été positif. On a équilibré. Voilà. Il y avait un service librairie aussi, avec la présence de Publico et de Radio Libertaire, qui, là, il faut vraiment saluer le travail Café Monique sur l'enregistrement, qui sont toutes les interventions peuvent être écoutées sur le site de Radio Libertaire, en podcast. Toutes les interventions, celles que j'ai citées, celles que j'ai oubliées, l'intervention de Didier Denins aussi, qui était présent, voilà. Donc, on voulait remercier aussi, surtout, ceux et celles, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font de manière... D'abord, c'était la seule initiative parisienne sur le centenaire de Michel Ragon.
Oui.
C'est une initiative qui n'était pas institutionnelle, de A à Z, c'est-à-dire qu'on n'a eu aucune subvention, c'est-à-dire c'est un budget de 7000 euros, et ça veut dire que ça a été équilibré grâce aussi, il faut le souligner, à l'apport au soutien financier de gens qui viennent d'en bas, qui sont des lecteurs de la revue, qui sont des abonnés de la revue, qui sont des proches, des sympathisants, des adhérents, ou des gens qui nous connaissent peu, mais qui ont tenu à soutenir cette initiative, puisqu'on avait créé une cagnotte en ligne aussi, hein, sur Hello Assos, pour ne pas les nommer, qui a aussi donné des résultats. Et c'est tous ces petits ruisseaux qui ont permis à notre petite revue d'être équilibrée et de pouvoir envisager la poursuite de notre activité, de préparer le numéro 10 pour la fin de l'année de Fragments, qui reprendra les actes du colloque, plus un certain nombre de contributions qu'on a reçues des gens qui ne pouvaient pas être présents au colloque, hein, comme Philippe Jeunesse par exemple, ou des étudiants qui travaillent sur Ragon. Et ensuite on prépare un livre sur les postiers, je l'ai dit, et on prépare aussi un numéro 11 où il y aura un dossier sur Panaïs Istrati. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Michel,
si tu veux
compléter sur le colloque,
c'est
sans doute oublier des gens.
Bien, hein, résumé.
Voilà, je peux quand même citer peut-être les différents intervenants. Outre Sarah Matari, il y avait Claire Robert, hein, qui est intervenue sur le cycle vendéen. Abby Patrix, hein, conteur. Sophie Mokhtari, Justine Mangeant, donc Michel, Giuseppe, Sylviane, qui ont parlé de
Courbet
et Ragon. Harry Bellet, qui est intervenu sur l'art, pourquoi faire. Christophe Carassou, qui est comédien. Sylvain Boulou, qui a travaillé un peu la question de Ragon et les anarchistes. Patrick Verdun, un ouvrier de Vendée, qui a fait un travail remarquable sur la bibliographie depuis des années. C'est une bible. Hein.
Oui,
moi, j'ai eu besoin d'un texte à un moment de Ragon sur l'église. Je l'ai eu en 4 heures, il me l'avait renvoyé. Il a fait un travail d'érudit vraiment important. André Derval, bien sûr, qui a présenté son livre, la première autobiographie de Michel Ragon. Didier Denins, Bernard Bessa, dont on a pu voir le film. Thierry Maricourt, que je ne voudrais pas oublier. Laurent Gelin, voilà, qui sont des postiers. Hein, pas Thierry Maricourt, qui lui est écrivain, anarchiste, qu'on connaît bien à Radio Libertaire. Mm-hmm. Laurent Gelin, qui est postier, hein, qui est facteur. Et j'oublie pas Jean-Marc de Bayonne, postier à la retraite. Il y a pas mal de postiers, hein, dans la revue. Mm-hmm. Et, il n'y a pas que, il y a des cheminots. Christian et Monique ont assuré aussi une grande partie de l'accueil. Enfin, vraiment un bon moment qui était très convivial. En plus, les repas étaient préparés par nous-mêmes, par une équipe dédiée. Et vraiment, c'était un moment aussi chaleureux. Hein, je veux dire, c'est bien des fois. Et puis, on a pu toucher un samedi et dimanche, c'est important. Quand j'ai une critique sur certains universitaires, c'est qu'ils font des conférences un jeudi. Hein, il y en a eu au centre Poulaille, qui sont très bien, il y a matière à débat. Et ils s'étonnent qu'il n'y ait pas de travailleurs. Mais eux, ils sont là sur détachement ou payés par un centre de recherche quelconque. Et là, ça nous a permis quand même d'avoir, je dirais, c'est un des objectifs d'une des difficultés d'ailleurs de littérature prolétarienne. Ça revient comme un serpent qui se mord la queue. Oui, mais les travailleurs ne lisent pas ces écrits prolétariens qui parlent d'eux, de leur réalité, etc. Mais il y a des fois où aussi il faut se donner les moyens de pouvoir au moins en contacter quelques-uns et qu'ils puissent venir tranquillement un jour où ils ne bossent pas. Je me rappelle au centre Poulaille où il y avait une journée intéressante sur la question des chansons dans l'itinéraire de Poulaille. Il y a quelques camarades qui sont venus à 5 heures, quoi, à la fin de la journée, parce qu'ils bossaient. Il faut gagner sa compte hein, quand on n'est pas en retraite. Vous détachez.
Oui, pour l'instant, on n'est pas dans un autre monde, donc effectivement, on est obligé encore.
Voilà. Donc, je crois qu'on peut conclure. Oui.
Je m'excuse de reprendre le micro. Le mois prochain, une rediffusion indirecte, peut-être, Raphaël ?
Voilà, ah oui. Le mois prochain, on se voit, on se voit ou on rediffuse. On va voir comment on peut s'organiser, mais en tout cas, sans doute une partie des interventions du colloque. Hein. C'est déjà prêt, je crois, mais on retravaillera. Il y a eu un petit bug le mois dernier, mais bon, c'est réglé. Et donc, on va s'occuper de ça. Voilà. Donc au revoir aux auditeurs de l'émission de Radio Libertaire qui ont écouté l'émission et pourtant elle existe cette littérature.
Voilà, l'émission est terminée, Radio Libertaire 89.4, alors je vais annoncer le numéro, enfin la chanson de fin. On va partir en douceur avec une mélodie de Simon & Garfunkel, Scarborough Fair, Canticle. Voilà. Ah, vas-y.
C'est parti, je peux y aller. J'ai oublié juste un point à signaler, un numéro aussi spécial du Monde Libertaire avec un dossier important consacré à Michel Dragon.
Voilà, c'est parti pour la musique. Voilà.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cat. The deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, snowspire and snow-crested pine, without no sleep or night, and enclose the child of a mountain. She'll be a true love of sleeps mine. Salt water and salty strands and polishes a fan. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme. She'll be a true love of mine.
J'ai des pavés et de la poudre, de la dynamite à foison, qui rivalise avec la foudre pour débarbouiller l'horizon. J'ai poudre verte et mélinite, un peu fameux produit, mes enfants, pour nous débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres gens. J'ai pour les gaver de la table la bombe glacée à servir, du haut la balle en dirigeable par les toits pour les rafraîchir. Voleuses et traîtres bourgeoisies, prêtres et bandits couronnés, il faut que d'Europe en Asie, vous soyez tous assaisonnés. J'ai ce qu'il faut dans ma boutique, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infâmeurs de l'univers.
Ton cœur, parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan, de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu clair profond.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard infâme, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors le conflit israélo-palestinien est malheureusement toujours d'actualité et nous allons une fois de plus l'aborder avec l'ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, Alain Gresh. Alain Gresh est aujourd'hui directeur du journal en ligne Orient 21, sur lequel de très nombreux sujets concernant le monde sont traités chaque jour. Alain Gresh a écrit plusieurs livres, bien sûr, sur la Palestine, et le dernier a été écrit après les événements du 7 octobre 2023, et il a pour titre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir ». Ce livre est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. La parole d'Alain Gresh est très importante dans cette période de répression par le gouvernement français de toute personne qui soutient la lutte du peuple palestinien. Des étudiants qui manifestent devant les universités sont réprimés, Des femmes et des hommes politiques qui ont parlé de la résistance du peuple palestinien sont accusés d'apologie du terrorisme, et toute personne qui dénonce les crimes de l'armée israélienne à Gaza est taxée d'antisémite. Dès la parution de son livre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir », le 2 mai 2024, Alain Gresh a été interviewé sur différents médias, et je vais vous faire entendre dans cette émission des extraits de ses interventions. Mais je vais vous faire entendre aussi ce que Alain Gresh disait déjà le 4 mai 2011, il y a donc plus de 20 ans, dans l'émission Civis Pacem, au sujet de son livre « De quoi la Palestine est-elle le nom ?». J'avais interrogé à cette époque Alain Gresh dans les locaux du Monde diplomatique, où il était encore rédacteur en chef, et déjà son analyse du conflit annonçait la guerre israélienne à Gaza. Mais commençons par l'actualité et l'entretien d'Alain Gresh sur l'antenne France 24 le 3 mai 2024.
Alain Gresh, comment est-ce que vous comprenez le maintien de la menace de l'opération militaire israélienne sur Rafah, le rajout de cette autre menace, donc d'une opération militaire d'envergure dans le nord d'Israël, alors qu'on parle d'une trêve? Est-ce que les deux choses sont conciliables?
Le gouvernement israélien a un problème. Il a un problème, c'est que les objectifs qui s'étaient